Nos esprits sont façonnés par la nourriture, tout comme nos corps, nos villes, nos paysages, notre économie, notre politique, notre climat, nos habitudes. Vous savez, la façon dont nous sociabilisons, ainsi que notre relation avec la nature.
Voici Caroline Steele. Elle est architecte et philosophe à Londres et ses idées tournent autour de l'urbanisme alimentaire. L'étude de la façon dont l'alimentation et les villes sont interconnectées.
L'idée de base est que nous vivons dans un monde façonné par la nourriture. Mais nous ne nous en rendons pas compte parce que, d'une certaine manière, l'industrialisation a rendu la nourriture invisible. L'idée est donc qu'en la valorisant, nous pouvons tout changer. En pensant à la nourriture et en agissant à travers elle, nous pouvons tous nous améliorer.
Surtout en Afrique.
L'Afrique sera sans doute le continent le plus important au cours du prochain siècle, parce que c'est le continent, comme vous le savez, où la grande majorité de l'expansion démographique aura lieu. Pour moi, l'hypothèse selon laquelle tout le monde en Afrique va quitter la campagne pour aller vivre dans les villes et reproduire ce que nous avons fait en Occident est une idée qui doit être remise en question.
Bonjour et bienvenue dans La Surprise du Chef, un podcast dont la mission est de redécouvrir de délicieuses plantes négligées du patrimoine en Afrique et de repenser notre système alimentaire mondial. Je suis votre présentatrice, Pascal Maïkenia, et dans cet épisode, nous nous rendons à Londres où nous rencontrons deux femmes. L'une a imaginé Citopia, un endroit parfait construit autour de la nourriture, et l'autre est en train de le créer.
Je voulais être architecte depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Certainement à l'âge de 8 ans. Je me rappelle de toutes mes photos de bâtiments et autres. La passion de l'architecture m'a donc habité dès le début.
Caroline Steele a obtenu son diplôme à Cambridge. Elle est devenue une architecte et une maîtresse de conférences accomplie. Mais en étudiant le paysage urbain, elle a commencé à sentir qu'il manquait quelque chose au tableau.
Les architectes ont tendance à beaucoup parler de bâtiments, de densité et d'espace public. Tout cela est très abstrait, vous savez, et je suis londonienne et je savais que la vie dans une ville n'est pas comme ça. Je cherchais donc désespérément un moyen de donner vie au discours architectural et j'ai eu l'idée de le faire par le biais de la nourriture, d'écrire une ville à travers la nourriture.
Caroline est l'auteur de deux livres, Hungry City, How Food Shapes Our Lives, et Citopia, comment la nourriture peut sauver le monde. En 2008, Hungry City est devenu un best-seller international. Citopia est un mot qu'elle a elle-même inventé.
Il vient du grec cytos pour nourriture et topos pour lieu.
Plus tard, son concept de Citopia a été largement reconnu par les scientifiques, les concepteurs, les écologistes et même les artistes.
Et d'ailleurs, si j'ai inventé un mot grec, c'est parce que Citopia est délibérément une sorte d'alternative pratique, alimentaire et réelle à l'utopie.
Les marchés alimentaires sont devenus le point central de ses recherches. En écrivant Hungry City, elle s'est rendue compte que les civilisations anciennes cherchaient leur propre Citopia pour construire leur ville.
Ils ont examiné le paysage, les sources d'eau douce. Ils ont étudié les migrations d'animaux et d'oiseaux dans le sol pour essayer de déterminer si cette région serait fertile.
Elle prend Londres comme exemple.
Les céréales destinées à Londres arrivaient principalement par voie fluviale, puis dans les mêmes ports que le poisson. Billingsgate et Queen Hyde, puis elles essayaient de se frayer un chemin jusqu'au marché principal, où se trouve Cornhill, où elles étaient commercialisées. Et bien sûr, le marché a conservé son nom jusqu'à aujourd'hui. Et puis les rues qui mènent au marché principal, Cheapside, sont des rues sympas comme Bread Street et Fish Street. On se dit alors que la nourriture circule dans les rues. Ainsi, toutes les villes pré-industrielles sont littéralement façonnées par la nourriture.
La révolution industrielle a commencé à la fin du XVIIIe siècle. De nombreux habitants des zones rurales se sont installés dans les villes à la recherche d'emplois mieux rémunérés. Et à mesure que les villes se développaient, la demande de nourriture augmentait de façon exponentielle. Pour répondre à cette demande, la façon dont les aliments étaient produits, distribués et consommés a radicalement changé. La nourriture est devenue bon marché.
Ce que nous avons fait, c'est que nous avons imaginé pouvoir bien vivre grâce à la nourriture bon marché, ce qui n'est pas possible. Ce leurre n'existe que par l'externalisation du coût réel de la production alimentaire.
Ce qu'elle veut dire, c'est que lorsque nous économisons de l'argent en achetant de la nourriture bon marché en magasin, ce coût est supporté par notre environnement. Prenons l'exemple d'un hamburger. À Lyon, où j'habite, il peut coûter environ 10 euros. Dans son livre « The Value of Nothing », l'économiste et activiste britannique Raj Patel affirme qu'il devrait en fait coûter près de 200 euros si l'on tient compte de ses conséquences environnementales cachées, telles que les émissions de CO2, la déforestation ou l'utilisation de l'eau.
En d'autres termes, nous avons inventé l'agriculture avec des produits chimiques, avec les combustibles fossiles, les monocultures et tout le reste. Aujourd'hui, ce système est malheureusement en train de se mondialiser. Vous savez, lorsque vous cultivez avec des produits chimiques, vous pouvez produire beaucoup plus de nourriture. Mais c'est une solution à court terme, car on malmène la nature pour obtenir de meilleurs rendements. On détruit le sol. Et une fois que vous avez détruit le sol, vous vous retrouvez dans une sorte de jeu à somme nulle. Nous vivons donc à crédit.
Elle a donc l'impression que la nourriture est devenue, en quelque sorte, un saisissable.
Tout le système est maintenant très linéaire. La nourriture provient d'endroits invisibles, elle se déplace de façon invisible. Le système est contrôlé par de grandes entreprises, dont beaucoup, soit dit en passant, sont plus puissantes que les gouvernements nationaux. Il s'agit donc d'un problème majeur, car si l'on veut changer les choses, comment faire ? Les politiciens n'ont pas le contrôle.
Elle est convaincue que pour établir Citopia, nous devons placer la nourriture au centre de nos villes et lui redonner de la valeur. Et sa foi inspire d'autres personnes.
Hi. Nice to meet you, Naira.
Naira Davlashian est notre journaliste.
Et c'est une très belle ferme.
Je sais, nous avons beaucoup de chance d'être ici.
Et par ici, Chloé Denette, la créatrice de la ferme Citopia, parle de la ville de Londres, qui peut sembler être un endroit improbable pour cultiver de la nourriture.
C'est comme si vous étiez à la campagne.
C'est exactement ça, c'est vraiment incroyable. Voici donc notre belle ferme d'environ 1 hectare, juste ici, la ferme Citopia, qui est plutôt cool.
Avant de créer Citopia, Chloé travaillait pour le gouvernement national. Mais pendant la pandémie, elle a décidé qu'il était temps de changer de vie.
J'ai toujours eu le fantasme secret d'être fermière. Et puis il s'est passé des choses il y a quelques années, notamment la mort d'un ami très proche. Et je me suis dit que la vie était courte.
Chloé a pris un congé sabbatique pour obtenir une maîtrise en politique alimentaire et a commencé à créer sa première ferme, le précurseur de Citopia. C'est alors qu'elle a lu Hungry City de Caroline Steele.
C'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il me fallait un nom pour ma ferme. Et j'ai pensé que c'était le bon. Parce qu'il s'agit d'une vision optimiste du changement de l'ensemble du système. J'ai écrit un courriel dans lequel j'ai expliqué qui j'étais et de quoi il s'agissait, et j'ai dit « Cela vous dérangerait-il beaucoup que je crée cette nouvelle entreprise sociale et que je l'appelle Citopia Farm ?» Et elle, très gentiment, sans m'avoir rencontrée, a clairement parié sur moi et a dit oui. Et je lui ai ensuite demandé de faire partie de mon conseil consultatif, ce qu'elle a accepté. Et c'est parti de là.
La ferme a ouvert ses portes il y a un peu plus de 2 ans. Avec l'aide de centaines de bénévoles, Chloé a converti un champ qui servait auparavant de pâturage en une ferme en activité. Aujourd'hui, elle travaille avec 2 employés et des bénévoles occasionnels.
Nous produisons plusieurs tonnes de produits au cours de l'année. Cela varie en fonction de la saison, mais en moyenne, nous produisons quelques centaines de kilos, ce qui nous permet d'avoir des produits très variés chaque semaine. Nous organisons régulièrement des journées de bénévolat au sein de la communauté. Toutes les semaines, nous organisons une boutique pop-up et nous ouvrons la ferme gratuitement. Nous avons organisé divers soupers, dîners et événements ici et nous avons encore beaucoup d'autres projets. Nous avons déjà reçu plusieurs milliers de visiteurs.
Avec ses rangées d'herbes et de légumes, ses parterres de fleurs colorées et ses nombreux polytunnels, la ferme Citopia couvre environ 1 hectare, soit la taille d'un terrain de football. La gestion de l'espace est importante.
Par exemple, nous évitons de cultiver des plantes racines comme les pommes de terre. Elles restent dans le sol pendant des mois et on n'en tire qu'une seule récolte. Cela prend trop de place. Nous nous concentrons donc sur d'autres cultures qui ont une valeur relativement élevée. Il s'agit souvent des plantes vivaces que l'on coupe et qui repoussent et de produits périssables.
Mais aussi les plantes patrimoniales et les variétés rares.
Par exemple, nous cultivons des betteraves et des carottes que tout le monde connaît. Mais nous cultivons aussi la betterave dorée et une plante appelée betterave à sucre, qui est une sorte de bande rose et blanche qui ressemble à un bâton de pierre lorsqu'on la coupe. Il existe une grande variété de fruits et légumes, mais évidemment, notre système alimentaire actuel s'est tellement rétréci.
Chloé n'utilise pas de produits chimiques ni de pesticides. Chaque plante de Sitopia a sa place et joue son rôle pour créer un système résilient. On laisse les plantes pousser dans leur forme naturelle pour qu'elles puissent être pollinisées et contribuer à la biodiversité, comme cette belle plante à hauteur de taille avec des fleurs d'un jaune éclatant.
C'est donc de la nette ?
C'est en fait du fenouil. Nous avons de l'aneth qui commence à pousser, mais il faut le goûter. Je pense que c'est tout simplement incroyable, le pollen ici. Et nous l'utilisons pour différentes raisons. C'est excellent pour attirer les insectes utiles. Vous pouvez en voir quelques-uns dessus. Ces tiges sont absolument magnifiques pour la fluorescence des bouquets et les chefs en raffolent également. Le pollen de fenouil, goûtez-le, c'est vraiment magnifique.
Je veux en manger tous les jours.
C'est le genre de choses qu'on ne trouve pas dans les magasins. On ne peut pas facilement l'emballer, le transporter sur des kilomètres ou le vendre dans des supermarchés ou ailleurs. Mais c'est merveilleux.
Londres s'enorgueillit de toute une série de jardins familiaux, de jardins urbains et de fermes écologiques. Mais pour Chloé, Sitopia se démarque.
Vous savez, ce n'est pas à but lucratif, mais nous sommes ici pour cultiver des quantités suffisantes d'aliments et les vendre afin de couvrir nos frais. Il s'agit essentiellement d'une question d'échelle, car je ne pense pas que l'on puisse compter sur la bonne volonté pour changer le système alimentaire. Les contraintes économiques sont très importantes, tout comme les contraintes environnementales et sociales.
Sitopia Farm travaille avec des restaurants et des fleuristes, mais vend également des paniers de nourriture aux habitants du quartier. En seulement 2 ans, Chloé a triplé les revenus de la ferme pour atteindre environ 70 000 euros.
Tout mon personnel est payé à un salaire décent pour Londres. Les ventes nous permettent tout juste de couvrir nos frais. Cela dit, c'est vraiment, vraiment difficile. Je ne me verse pas encore un salaire suffisant pour vivre à Londres, mais j'espère le faire bientôt. Et comme pour toute nouvelle entreprise, nous n'en sommes qu'au premier jour. Nous avons augmenté nos ventes d'année en année. J'espère en faire encore plus maintenant.
Chloé pense qu'il y a suffisamment de terrain dans un pays comme le Royaume-Uni pour développer le modèle des jardins municipaux. Une étude réalisée par l'université de Sheffield a révélé que la culture d'aliments, dont seulement 10% des espaces urbains, pouvait fournir à 15% de la population locale suffisamment de fruits et de légumes pour un régime alimentaire sain. Le plus grand obstacle à la mission de Sitopia est la prévalence de la nourriture bon marché.
Et oui, ce n'est pas facile. Nous sommes en concurrence avec le système qui externalise le coût de la nourriture, mais lorsque nous parvenons à toucher les gens et qu'ils peuvent goûter les produits, ils en voient la qualité. Nous voulons participer au changement qui nous semble urgent, montrer aux gens ce qu'il est possible de faire et toucher un public plus large. Je pense que nous pouvons toucher beaucoup plus de monde là où nous sommes, à Londres.
La ferme Sitopia nous donne une idée de ce que pourrait être un avenir alimentaire plus prometteur dans une grande ville. Et comme 55% de la population mondiale vit dans des zones urbaines, Caroline insiste sur le fait que Sitopia ne signifie pas la fin des villes.
Il s'agit plutôt d'aménager les villes dans la mesure du possible, avec des cultures vivrières, qu'il s'agisse de petites exploitations agricoles, de fermes sur les toits, de jardins communautaires ou d'autres choses encore. Faisons comme autrefois, entourons les villes de jardins maraîchers.
Les villes jouent donc un rôle majeur dans Sitopia de Caroline Steele. Pourtant, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour que nos villes commencent à valoriser et à produire des aliments sains et de bonne qualité.
Les gens sont prisonniers de ce système qui leur fournit de la nourriture, mais ce n'est pas de la bonne nourriture. Et nous savons que ce n'est pas non plus une nourriture propre ou équitable, mais ils ne peuvent pas y faire grand-chose. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils n'ont pas beaucoup de temps, ils n'ont aucune compétence. Il faut donc tout chambouler et repartir à zéro, parce qu'il n'y a pas de nourriture bon marché et qu'il faut recommencer à apprécier la nourriture à sa juste valeur. Et cela signifie que nous devons consacrer plus de temps, d'efforts et oui, d'argent à la nourriture.
Mais pouvons-nous vraiment nous permettre des repas plus chers ?
Nous devons partager nos richesses différemment, avoir un régime d'imposition qui permette aux gens de bien manger. Et nous devons partager nos terres différemment. Nous avons besoin de plus d'agriculteurs avec un meilleur accès à la terre pour cultiver de cette façon.
Et internaliser le coût réel de la production alimentaire.
Et ce que cela signifie, c'est qu'il faut trouver des moyens de produire des aliments qui n'ont pas toutes ces terribles externalités mondiales qui mettent la vie en danger. En d'autres termes, l'agriculture biologique, locale, régionale et saisonnière. Si vous pratiquez une agriculture régénératrice, vous imitez les systèmes naturels. La viande et les produits laitiers redeviennent donc des aliments de luxe qui sont élevés dans le cadre d'un système d'agriculture biologique mixte à base de plantes.
Cytopia signifie des changements majeurs dans tous les domaines de la vie.
La transition se fait vers une vision littéralement différente de ce qu'est bien vivre. Parce qu'on ne peut pas vraiment poser la question, vous savez, comment devrions-nous manger sans poser la question, comment devrions-nous vivre? Ce sont deux questions inséparables.
Et les pays du Sud constituent un élément clé de la cytopia de Caroline Steele.
Une partie de notre activité en Occident consiste à travailler avec les gens du Sud et à leur dire quoi faire. L'Afrique est essentielle à cet égard, car la plupart des Africains continuent à cultiver leurs terres comme ils l'ont toujours fait. Il existe en fait de nombreuses preuves que lorsque les populations du Sud abandonnent l'agriculture de type occidental et reviennent à l'agriculture locale, leur rendement augmente de façon spectaculaire.
Dans un monde toujours en proie aux inégalités, Caroline Steele n'a aucun doute, un système alimentaire durable, une cytopia mondiale, nécessite une nouvelle révolution économique.
L'idée du bien-vivre véhiculée par le capitalisme industriel en 1750 est de traiter la nature comme si elle était une source de revenus gratuits inépuisables. Nous avons donc besoin d'une nouvelle économie. Et je ne vois pas de meilleure base que la nourriture, parce que la nourriture est la chose la plus précieuse dans nos vies. Ce n'est pas optionnel.
Après tout, son rêve est de créer une société dans laquelle tout le monde peut bien manger.
Personnellement, j'aimerais avoir un jardin à côté de ma cuisine. Et en fait, si j'imagine la meilleure cytopia possible, tout le monde en a un. Et tout le monde a une cuisine, c'est la pièce principale de la maison. Et elle donne sur un jardin où l'on peut cultiver de la nourriture si on le souhaite. Je ne suis pas fasciste. Je ne dis pas que tout le monde est forcé de cultiver de quoi se nourrir, mais qu'il faut avoir la possibilité de le faire.
Vous avez écouté La Surprise du Chef. Cette émission existe en anglais, The Star Ingredient. Je suis votre présentatrice, Pascal Maïkenia, et cette série est écrite et produite par mes collègues Naira Davlachian, Ashling Niculin et Martha Rodriguez-Martinez à Lyon, en France. Notre assistante de production est Alice Carnevali. Le reportage original a été réalisé par Naira Davlachian. Notre rédactrice en chef consultante est Catalina May à Santiago du Chili et notre consultante en journalisme de solutions est Michel Foin à Paris. Le thème musical est d'Andy Robini, le mixage sonore est assuré par Hugo Pouillard et Lionel Dussochois. Notre coordinatrice de production est Louise Lehec et notre rédacteur en chef est Patrick Leary. Vous pouvez écouter cette série sur Apple Podcasts, Spotify, Castbox ou ailleurs. Pour plus d'informations sur La Surprise du Chef, rendez-vous sur notre site web euronews.com. Le podcast La Surprise du Chef a été financé par le Centre européen du journalisme par l'intermédiaire de l'accélérateur de solutions pour le journalisme. Ce fonds est soutenu par la Fondation Bill et Melinda Gates.